L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant.
Allez, Volant, c'est parti. Bonjour, je suis Grégory Pouy et je vous présente Volant. Volant, ce sont des partages d'expériences concrets, sans bullshit, pour mieux comprendre comment le marketing a évolué. Bienvenue sur Volant et n'hésitez pas à vous abonner.
Bonjour à tous, je suis avec Laure de Carayon. Et Laure, on s'est rencontrés il y a 5-6 ans, on va dire. Je ne sais pas, franchement, j'en sais rien. Il y a quelques années, sans doute dans une conférence, parce que franchement, je ne sais pas non plus où on s'est rencontrés.
Moi non plus, j'ai oublié.
Voilà, c'est pas très grave. Et je suis ravi de t'avoir parce qu'on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est la Chine. La Chine, qui est un sujet qui est hyper intéressant parce que c'est là que le futur du digital se créé, c'est les paroles de Lubomira Rochet, donc qui est la CDO, Chief Digital Officer de L'Oréal. Et pourtant, à moins qu'on ait une vision globale ou qu'on travaille spécifiquement sur la Chine, moi j'ai rencontré beaucoup de marketeurs qui ne connaissent pas la Chine et qui s'y intéressent pas beaucoup en réalité. C'est-à-dire que si on leur demande les 4 plus grosses boîtes de la Silicon Valley, ils vont pouvoir citer Google, Amazon, Facebook, Apple. Si on leur demande les 4 plus grosses boîtes dans le digital en Chine, je suis assez moins sûr qu'ils en arrivent à 4. Tu as créé China Connect il y a 6 ans, donc une conférence spécifiquement sur la Chine en France et en Chine.
Oui, en juillet dernier.
Voilà. Donc tu es vraiment l'une des grosses expertes en France sur le sujet. Déjà, peut-être tu peux nous raconter quelles sont les 4 plus grosses boîtes en Chine, si j'ai posé la question.
Non, mais on parle des BAT. Voilà, le X, je crois qu'on peut l'enlever, ça fait un petit moment d'ailleurs.
Alors, c'est quoi les BAT?
C'est plus dedans, Baidu, Alibaba, Tencent. Et en effet, pour faire le raccourci, on va dire qu'on a les piliers du search, de l'e-commerce et des contenus et du social. Et X, parce que voilà, il y a eu un petit peu l'explosion de Xiaomi, qui est d'abord un fabricant de soft, de hard d'ailleurs, de téléphones, les téléphones Xiaomi, mais qui a connu un petit peu des soubresauts quand même. Là, il revient, mais enfin, je pense qu'il est quand même très, très, très loin derrière. Et d'ailleurs, Baidu aussi, si on parle de capitalisation et autres, décroche un petit peu et on est en train de plutôt voir un duopole là, qui est en train de toujours plus s'imposer, que sont et Alibaba et Tencent, avec une spécificité par rapport à l'Internet de l'Ouest, hein, c'est clairement, et moi fondamentalement c'est vraiment ça, ce sont les écosystèmes. Comment ces acteurs sont sortis de leur cœur de métier, de leur pilier en termes d'expertise, pour aller chercher, pour l'un par exemple Alibaba, là où il était fait par exemple, dont les contenus au travers de la vidéo, en faisant l'acquisition en deux temps, on va dire, de Youku et de Tudo. En allant évidemment développer son propre outil de paiement avec Alipay, et Tencent à l'inverse, qui est un pilier, je dirais, dont les deux ressources sont sur le gaming et sur le social, avait une très très forte faiblesse sur l'e-commerce, est allé prendre des parts dans Jingdong, qui est la plateforme B2C, concurrente, on va dire, de Tmall, qui est la plateforme B2C de Alibaba, pour justement apporter, je dirais, un nouveau vivier d'utilisateurs et donc d'acheteurs potentiels à Jingdong. Et Jingdong, pour beaucoup dans sa croissance, elle est due en particulier aux utilisateurs de WeChat. Donc l'intégration de Jingdong dans WeChat. Tous ces acteurs...
WeChat, c'est Tencent.
Oui, WeChat, pardon, c'est l'application mobile de Tencent. Et puis Baidu, qui, lui, a raté un petit peu ce virage, je dirais, au mobile. Il en a pas totalement conscience. Robin Lee, le fondateur et CEO, il a dit, c'est vrai qu'on a perdu un petit peu ce virage. On sait très bien aujourd'hui que les gens ne cherchent plus qu'au travers des moteurs de recherche, mais vont directement ou sur un réseau social et ou, par exemple, sur une plateforme e-commerce. S'est plongé beaucoup plus rapidement aussi que les autres dans tout ce qui est intelligence artificielle, sur les objets connectés, la voiture, ses collaborations avec plusieurs constructeurs, par exemple, comme BMW. Mais BMW l'a lâché il y a quelques mois, et je crois qu'il y a Volvo qui est en train de rentrer. Donc Volvo, ça appartient à des Chinois, hein, maintenant, c'est Geely. Et puis, évidemment, et Alibaba et Tencent sont aussi en train de rentrer sur, enfin, rentrer sur l'intelligence artificielle. C'est un vaste mot, parce que c'est un vaste monde, l'intelligence artificielle, mais très clairement, avec des poches aussi profondes. La question aujourd'hui, c'est de savoir si la longueur d'avance que Baidu peut avoir va durer longtemps. Donc, ça, c'était une chose pour parler de ces écosystèmes. Donc, jamais, je crois que c'est incomparable, on ne voit pas à l'ouest ces espèces de toiles d'araignée qui rend en effet ces mastodontes hyper puissants. Mmh. Et je pense en effet comme potentiellement, mais sur certains piliers, des potentiels, je ne veux pas dire menaces, mais en tout cas réels en effet concurrents peut-être d'acteurs à l'ouest. Mais pour revenir sur le fait de l'internationalisation de ces acteurs, ça aussi c'est un petit peu une idée reçue, c'est-à-dire que c'est pas du tout sur la feuille de route de chacun d'entre eux, si tu veux. Alibaba a été le premier, parce qu'on est sur du e-commerce, parce que très tôt aussi, Jack Ma, fondateur, a fait part de sa fascination pour les États-Unis, et puis de son modèle, c'est « je ferai mieux d'ailleurs qu'Amazon ». Baidu a une feuille de route qui est plutôt d'aller sur les pays en voie de développement. Donc tu le vois dans l'hémisphère sud, très très clairement, le Brésil, l'Afrique du Sud, et puis dans certains pays d'Asie Pacifique. Tencent, c'est plus compliqué, mais Tencent est depuis très très longtemps à Silicon Valley. Il y a tous ces acteurs, que ce soit Baidu, Alibaba et Tencent, ont des centres de R&D établis depuis très longtemps là-dedans. Tencent a été introduit en bourse bien avant Alibaba et a fait déjà son marché sur le marché du gaming, et essentiellement d'ailleurs par acquisition. Et les dernières en date dont on a entendu parler se sont notamment passées en Europe et chez nos amis finlandais qui sont très très bons sur le sujet. Mais sur le social, là aussi, il y a eu des annonces, je me souviens, en 2013, lorsque tout d'un coup, ils ont pris comme spokesperson Messi, en se disant, on va aller, ça y est, commencer à en découdre un petit peu avec les Européens. Puis en l'espace de quelques mois, tout à vu, il y a eu des chiffres officiels de Tencent qui étaient dit, on a 15 millions d'utilisateurs en Espagne. Alors, je me suis dit, attends, 15 millions, mais c'est quoi ce truc? C'est un peu bizarre. Et puis tout d'un coup, tout ça est tombé. Et c'est vrai que la question s'est posée, mais finalement, est-ce que Tencent a échoué au travers de WeChat, en particulier dans sa sortie à l'extérieur. Bon, Tencent est pas du tout loquace sur le sujet. 6 ans après, c'est toujours 100 millions d'utilisateurs de WeChat dans le monde. C'était le même chiffre il y a 5 ans. Donc,
Moi, je pensais que WeChat, c'était en pleine croissance.
Oui, bien sûr, on est à 963 millions officiellement. Donc à ce rythme-là, on va frôler le milliard avant la fin de l'année.
C'est quand même moins que Facebook ou que Messenger.
Ouais, un petit peu moins. Instagram. Mais c'était par un pays qui n'est pas sorti de chez lui.
Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça le truc aussi. Mais... quand je regarde la Chine, j'ai toujours du mal à avoir... ils sortent toujours des énormes chiffres. Alors du coup, comme tu sais que les échelles ne sont pas les mêmes, tu n'arrives même plus à savoir si c'est pertinent, non pertinent, gros, pas gros. C'est tellement immense, la Chine, et il y a tellement de gens... Tu sais même pas, enfin, t'arrives même plus à avoir de.
Oui, mais t'as plus, quasiment, si tu as un périmètre constant, il y a plus d'utilisateurs de WeChat qu'il n'y a de personnes connectées en Chine. Si tu vois, on est à un taux de pénétration qui est un petit peu plus de 50% maintenant, aux alentours de 750 millions, tu vois. D'accord. Remarque, ça te fait 1,5 milliard, alors que t'as 1,4 milliard de personnes, donc on serait au-dessus, c'est compliqué, mais bon, voilà, parce que tu peux avoir plusieurs comptes et compagnie, mais non, c'est massif. C'est vrai que Tencent, avec sa messagerie WeChat, c'est un taux d'utilisation. Qui est vraiment majeur, très important. Donc voilà, on parlait de feuille de route, l'internationalisation, ce n'est pas l'objectif de chacun. Ils ont suffisamment à faire sur leur marché domestique avec une compétition qui sévit. Et puis surtout, là où nous, on a quand même des vraies locomotives, si tu veux. Souviens-toi, il y a Instagram, Snapchat, c'est un petit peu les derniers gros qu'on a vu débarquer, mais c'est tout, quoi. On se dit... c'est petit, enfin, le périmètre, il n'y a pas
beaucoup.
Il
n'y
a pas beaucoup. Mais... Ouais, enfin, mais bon. Ça, on peut en reparler, mais enfin, si tu ne peux pas le comparer à Snapchat, enfin,
non,
tu as 200 millions de personnes qui l'utilisent. Mais en Chine, ok, tu as ces géants qui sont là, mais il y a. Mais il y a une pléthore d'autres acteurs auxquels on doit s'intéresser. Si tu veux. Alors, quand on dit qu'en plus, on ne connaît pas les BATS, mais si tu veux, c'est... tu vas à l'étage du dessous, mais il y en a des quantités astronomiques de gens qui valent le coup. Et d'ailleurs, moi, je me suis toujours dit, OK, je ne suis pas là pour faire un tapis rouge aux BATS. Les BATS, c'est très bien, c'est hyper important parce qu'ils sont incontournables. Mais là où justement on a des consommateurs, voilà, une population qui s'enrichit, qui devient de plus éduquée et qui voyage, il est absolument impératif de faire un travail de veille sur, je dirais, voilà, d'autres plateformes, d'autres applications qu'ils utilisent et de manière assez massive. Alors, parce qu'on te dit souvent, en dessous de 100 millions en Chine, ça vaut rien, si tu vas même pas les regarder parce que c'est à peine significatif. Ouais, enfin, quand tu t'approches de 50, 100 millions et tout, il commence à se passer des choses. Après, ça peut mourir de sa belle mort. Hein,
mais... T'as des exemples de...
Mais bien sûr qu'il y a des exemples. Tu vois. Bon, Musical.ly, c'est pas... Je rebondissais parce que c'est une application, c'était chinoise, si tu veux, mais dont l'équipe de R&D est à Shanghai, mais dont le business, en effet, c'est d'abord fait aux États-Unis, mais l'Europe vient de dépasser les États-Unis en termes d'usage, et là, ils se lancent en Chine et en Amérique latine. D'accord. Mais tu as des applications comme Maopai, qui est une application, si tu veux, vidéo... Meitu, qui est une application d'ailleurs du même groupe, ils se sont introduits à la bourse de Hong Kong là, il y a quelques mois, qui est une application incroyable, d'ailleurs pour la beauté, où tu sais, jouer comme ça, bon, d'abord faire des diagnostics, mais surtout jouer aussi de manière très ludique. Et c'est ce qu'aiment particulièrement les Chinois et les Chinoises d'ailleurs. Il y a énormément de d'applications que les gens utilisent. Nice, qu'on avait notamment aussi invité. Aller faire son marché. C'est une application également image. C'est un réseau social. Si tu veux, tu vas aller poster. Voilà, tous tes goûts, tes centres d'intérêt. C'est beaucoup par l'image. Tout ça, ça ressemble beaucoup à du Instagram. Y en a énormément. Et que les marques, d'ailleurs, utilisent. Et qu'il faut aller de plus en plus utiliser. Parce que, au fur et à mesure que cette cible est de plus en plus sophistiquée, si tu veux, eh bien, elle va aller rechercher des plateformes où, justement, sa personnalité, son individualité va pouvoir être mieux restituée. Donc, ils vont aller chercher aussi des endroits plus niches pour s'exprimer. Ils aiment de moins en moins les boulevards, quoi. Bon, c'est pas pour ça que, par contre, bon, dès qu'on est sur le e-commerce, il y a comme ça des autoroutes, mais il y a d'autres acteurs, notamment comme Seiko, qui revendique d'être plus en phase avec la nouvelle expérience utilisateur, avec, je dirais, des modèles qui peuvent être comme des Yoox Net à portée haute. Bon, ils sont très très loin, évidemment, de les atteindre, mais en tout cas, c'est leur modèle qui les inspire, et ils se disent, si on a monté une caverne d'Alibaba, elle n'est pas faite pour une certaine cible qui revendique et qui veut se retrouver dans un environnement qui correspond à quelque chose de plus qualitatif, et d'où d'ailleurs les réactions rapides d'Alibaba qui lance Tmall Luxury et autres, qu'ils avaient dans le pipe depuis.
Et alors du coup, je reviens sur ce que tu dis, ça peut sembler en tout cas contradictoire quand tu dis il faut absolument que les marketeurs s'intéressent à ce qui se passe en Chine, et dans le même temps finalement ils vont rester en Chine, c'est pas vraiment sur leur feuille de route de s'internationaliser. Alors la question qu'on peut se poser de manière assez naturelle, c'est pourquoi je dois m'y intéresser finalement ?
Mais tu dois t'y intéresser parce qu'il y a 1,5 milliard de personnes, que tu as bientôt 200 millions de Chinois qui vont voyager dans le monde, et qu'aujourd'hui, si on parle du luxe, parce qu'encore une fois, il n'y a pas que le luxe, mais si on considère cette économie-là, ce sont les Chinois qui, aujourd'hui, entre 30 à 40% du business mondial de luxe se fait au travers de ces gens-là. Donc, par définition, nos marques de luxe s'y intéressent, sont présentes et viennent en découdre, c'est évident. Mais il y a d'autres secteurs qui sont intéressés pour ça. Donc, au fur et à mesure que tu as ce pouvoir d'achat qui augmente, il y a quand même, si tu veux, sur ce marché depuis des décennies, des scandales alimentaires, des scandales dans la santé, et donc ce sont autant de registres, de secteurs d'activité sur lesquels tout acteur occidental, avec la crédibilité, tout l'historique qu'il peut avoir et le savoir-faire, va trouver un marché pour lequel d'ailleurs les Chinois peuvent les solliciter. Tu as un marché des seniors évidemment qui explose, on a une population très très vieillissante en Chine, hein, et c'est un vrai sujet pour le gouvernement. Eh bien on a des services, des boîtes comme des Orpea et autres qui installent des maisons de retraite qui sont consultées pour savoir comment on fait pour accueillir ces gens-là. On n'est pas prêt, ils sont aussi débordés, donc on est là, on a des choses à leur apporter. Donc il y a de très très gros débouchés sur l'alimentaire même prêt premium et tout ça, qui s'achète au travers du cross-border ou sur des sites classiques e-commerce, hein, en propre ou sur des marketplaces. Donc, ouais. Là aussi, le maillon de la chaîne est assez vaste, beaucoup de possibilités. Donc, ces gens-là, oui, ils sont très gourmands de ce qui se passe à l'Ouest. Et puis, il y a ce corollaire aussi, c'est justement, ces gens-là apprennent très, très, très vite. Et ils ont également conscience de plus en plus, finalement, de qui ils sont, d'où ils viennent. Et cette espèce d'héritage, de savoir-faire, ils veulent le remettre là, sur la table. Donc ils relèvent les coudes en se disant, mais nous aussi, on sait, on a eu des artisans qui ont su fabriquer, concevoir des choses magnifiques, des objets, qui doivent, par exemple, si on parle de luxe, on sait qu'on a des produits, des marques sur lesquelles on a un savoir-faire. Et ils sont en train de se dire, non mais attends, finalement, ces Occidentaux, ils viennent fabriquer leur Nike dans l'usine d'à côté de moi, ma marque qui peut s'appeler Anta ou Leaning, mais finalement, attends, je ne vais pas me laisser avoir comme ça. Et, bon, ils achètent encore le rêve Nike, et ils achètent du rêve Adidas. Voilà, parce que ça prend, heureusement, et qu'on investit.
Mais aussi une grosse fierté nationale.
Oui, tout à fait. Et là, on a sur des marchés comme les FMCG, comme l'alimentaire, les locomotives occidentales, les P&G, les Unilever et les L'Oréal, qui ont sérieusement affaire avec des acteurs locaux, avec des parts de marché qui sont vraiment très challengées, parce qu'il y a du premium de prix qui sur lequel finalement les Chinois sont beaucoup moins prêts à payer aujourd'hui. Mais on arrive aussi pour des marques qui ont compris que la localisation était très importante, donc lâcher un petit peu l'abri aux équipes locales, et Dieu sait si en termes de ressources et de talents, ça reste aussi un sujet de friction très important dans les organisations entre les sièges et justement leurs équipes locales ou régionales, c'est à quel point, quelle est la capacité du siège à laisser les personnes en place décider, ça veut dire vraiment avoir la compréhension beaucoup plus fine de ce qui se passe localement et surtout être capable d'aller réagir très très vite et dans une logique aussi de test and learn, c'est-à-dire que nous on est beaucoup encore dans des études, faire la preuve d'eux et puis entre temps il sera écoulé 6 mois, ouais mais entre temps, moi je me souviens très très bien avoir vu le CMO d'une boîte là-bas qui m'a dit que le siège lui avait dit ok un an et demi après, il lui a dit non mais attendez mais un an et demi là, mais vous rendez compte ce que c'est, donc déjà ça m'est égal là, c'est juste trop tard et puis on a peut-être perdu un point de part de marché ou je sais pas entre-temps. Donc, c'est vrai que c'est difficile et c'est cet exercice, cette tension qui existe aujourd'hui dans des organisations. Et puis certaines, on joue mieux de ça avec des personnes qui peuvent agir de manière plus autonome. Quoi. Et ça reste certainement un des sujets assez clés à l'avenir. Donc après, pour l'intérêt, je pense que... moi je me souviens, 2011, ça me semble être de la préhistoire, quand j'ai lancé tout ça, on m'a un peu regardé, c'est vrai, un peu comme une ovni, mais je remercie encore tous ceux qui nous ont soutenus, parce que les médias, les offres médias, les Influencia, les Frenchwear, enfin tout le monde, même toi, de vous être intéressé au sujet, vraiment, ils sont nombreux... mais Dieu sait si c'est c'est laborieux parce que tu peux partager comme ça un peu cette passion, essayer de comprendre, mais quand les gens ont des PNL sur la France voire IMI et puis ils te disent attends mais moi la Chine c'est pas mon sujet, c'est pas mon registre, tu vas pas le lui reprocher quoi, and so what, mais maintenant c'est plus que ça, je crois que culturellement on est dans un métier, le marketing, la communication, mais on a pour mission personnellement pour nos clients en tout cas au minimum de s'informer, de savoir. Et ça n'est plus possible aujourd'hui dans nos métiers de ne pas regarder ce qui se passe là-bas. J'ai envie de dire pas tant, parce qu'encore une fois, on sera concerné effectivement, puisque on est dans un écosystème propriétaire en Chine. Donc, c'est pas demain que ces gens-là vont venir disrupter ton métier ou même le service que tu vas rendre à tes clients. Mais Et c'est qu'aujourd'hui, on peut aller trouver une inspiration incroyable.
C'est ça. Mais c'est ce que fait.
Parce que ce qui nous sépare encore, et tu l'avais dit, c'est la culture. On reste culturellement, voilà, entre guillemets, aux antipodes, même si les Chinois se rapprochent plus de nous. Et encore une fois, il faut bien garder à l'esprit, c'est que ils nous connaissent beaucoup mieux que nous ne les connaissons. Et ils parlent anglais beaucoup mieux que nous ne parlons chinois ou ne parlerons chinois demain. Et donc, ils ont déjà une longueur d'avance là-dessus. C'est qu'ils ont décrypté, ils ont compris ce qu'on fait. Donc, le fameux copier-coller, si tu veux, c'est plus sioux que ça. C'est beaucoup plus sioux que ça. C'est qu'ils savent très bien ce qui fonctionne chez eux. Donc, ils empruntent ce qui peut fonctionner éventuellement chez eux, mais WeChat, ils ne nous ont pas attendus. Ouais, voilà. Donc, et heureusement, et c'est très bien. Mais je pense qu'on a la cross-fertilisation, c'est aujourd'hui. Et il faut absolument. Mais c'est un vrai kiff, moi. Ça me fait.
Et alors, moi, j'ai jamais été aussi.
Ce pays, c'est génial, quoi. Il faut allez-y, et je pense que vous reviendrez enchanté. Vous pouvez vous dire, mais plus jamais, la pollution, le machin, c'est dingue. Mais c'est un film, quoi. J'y vais, j'observe énormément, je me fais limite une trame de métro en entier, je regarde les gens, et il faut vraiment aller s'y frotter, quoi. Moi, des Baïdous, j'y suis allé 5 fois là-bas. Il faut arrêter de parler de la Chine sans y aller, quoi. À la limite, je te fais ton blanc avant l'heure, parce que c'est un peu ça, je trouve qu'il y a. Parce que j'ai pas de porte à claquer, moi ça m'a. Mais je trouve que c'est pas normal. On est en 2017, qui est encore. On parle autant comme ça de la Chine, où beaucoup de gens en parlent sans y avoir jamais mis les pieds. C'est complexe. Moi je discute tous les 4 matins avec des gens qui sont depuis 20 ans, qui ont l'humilité de dire que même au bout de 20 ans, ils comprennent rien. Alors bon,
c'est tout relatif.
On comprend ce que tu veux dire, mais c'est tellement difficile, mais moi je rencontre des gens qui me disent des trucs.
En même temps, c'est aussi pour ça que les gens ils s'y intéressent pas, parce que c'est tellement compliqué.
Je vérifie avec 3-4 personnes, je contrebalance, tu t'aperçois que machin il est investisseur dans ça, machin, donc c'est pour ça qu'il te dit un truc bien. Enfin, il faut être hyper prudent, il faut prendre un peu de distance, et c'est aussi un peu pourquoi je me suis dit, moi je vais faire mon homework un peu toute seule, je vais en Chine, mais je retrousse mes manches et je vais voir les gens et je vous les porte, j'y vais un peu toute seule. Donc c'est rétrospectivement, c'est presque drôle, quoi.
Et alors, moi, du coup, je pense que j'ai jamais été aussi frustré d'arrêter un enregistrement, parce que c'est hyper intéressant et que le sujet est, comme tu le dis, hyper complexe. C'est quand les prochains rendez-vous de China Connect pour que j'en puisse
C'est sympa. Écoute, ce sera en mars 2018. Ce sera la 8e émission. Il y a plein de 8. C'est un jour de chance, un chiffre de chance pour les Chinois. Donc on verra bien.
D'accord.
Mais surtout, je lance un nouveau rendez-vous là qui va commencer le 27 septembre. Ça va s'appeler China Connect Mornings.
Ouais.
L'idée, c'est petit créneau, 8h30-10h30. On va faire ça d'ailleurs chez Lafayette Plug and Play. Un accélérateur qui est notamment très intéressé par le secteur du retail et du luxe. L'idée, c'est 5 fois par an. Je l'ai expliqué comme étant votre nouvelle tasse de café ou de thé digital sur la Chine. C'est d'apporter un peu plus de récurrence aussi à China Connect et d'être dans les grands temps. En étant dans les grands temps du calendrier digital business chinois. Je dirais que là, c'est un petit peu pour parler des tendances. On va ouvrir sur l'intelligence artificielle, on va faire un spécial 11-11, il y aura un spécial FinTech en janvier, un rendez-vous également sur le grand événement, moi, dont je suis partenaire depuis 4 ans, qui s'appelle GMIC, le Global Mobile Internet Conference, qui a lieu à Pékin chaque année, et puis sans doute quelque chose sur le Mobile World Congress de Shanghai. Donc voilà, c'est des grands temps, et profiter de faire des bilans un petit peu sur les secteurs, d'infuser un petit peu.
Et donc, si les gens veulent s'abonner, ils vont où? Enfin, s'ils veulent s'abonner, s'ils veulent venir, ils vont sur Allo Web, ils tapent quoi?
Ouais, on va lancer un petit mail. D'abord, c'est chinaconnectforum.com et c'est là déjà que vous pouvez se trouver. Et chinaconnect EU pour Twitter.
Génial. Merci beaucoup, Laure.
Merci à toi, Greg. Merci beaucoup.
Merci d'avoir écouté Vlan, le podcast qui parle du marketing à l'ère digitale. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.